Bon, bonjour. Nous allons commencer au midi. Là. Alors, la présentation va durer peut-être 30-40 minutes. Et je vous présente brièvement les membres de l'équipe là, qui ont travaillé à cette recherche. Mme Louise Canel, sciences politiques, qui a déjà été membre, là, je pense, membre du CRAD. Hein?
Oh, je l'ai été jusqu'à hier.
Je vais être encore
demain, ça. Encore
Serge Bellé de l'ENAP, qui est un ancien de la TDR. Alors, André Lavigne, qui est prof à l'UQTR, à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Moi, c'est pas le l'ENAP, membre du CRAD, encore pour quelques temps, j'imagine. Là. Alors, écoutez, on commence. Serge va d'abord prendre la parole.
Merci, Paul. Bonjour tout le monde. Merci d'être là.
Alors, ça nous fait plaisir
de venir vous parler un peu des élections municipales dans ces trois villes. Donc, Lévis, Québec et Trois-Rivières. Donc, on a ici le plan de la présentation. Alors, j'essaierai d'y aller assez rondement pour qu'on ait justement du temps pour pouvoir échanger et puis... répondre aux questions que nous espérons nombreuses. Alors, un mot d'abord en introduction pour rappeler que cette recherche que nous avons faite à Troyes s'inscrit dans un projet plus vaste ou une recherche collective, en fait, donc sur le pouvoir local et les élections municipales de 2009 dans les 9 plus grandes villes du Québec. C'est important de mentionner parce que c'est la première fois qu'au Québec, on conduisait une analyse comparative sur les élections municipales dans les grandes villes. Il y avait des choses qui avaient été faites sur Québec, sur Montréal, mais en dehors de Québec-Montréal, on ne connaissait pas grand-chose de ce qui se passait sur la scène politique dans ces autres grandes villes. Alors, les autres grandes villes, vous les connaissez, Sherbrooke, Saguenay, Gatineau, Longueuil, Laval, il en manque une, Trois-Rivières. Donc, une analyse comparative. Pourquoi avoir fait cette comparaison ou cette analyse comparative sur l'élection de 2009, ben, ce qu'on recherchait, au fond, ce qu'on cherchait à comprendre, c'est plus précisément la fonction de représentation politique au niveau local. Alors, comment se fait la représentation politique au niveau municipal, par qui, comment, et les élections sont une belle occasion pour regarder effectivement comment se fait cette représentation. Les élections et aussi ce qui se passe après, bien sûr. Les enjeux électoraux, alors de quoi débattons dans les campagnes électorales municipales, de quoi a-t-on parlé en 2009 notamment, par comparaison à ce dont on parlait dans les élections antérieures. La présence et l'absence des partis politiques, on aurait dû ajouter peut-être municipaux, bien que des partis politiques sont pas toujours, des autres niveaux ne sont pas toujours absents. Mais la particularité au Québec, comme vous savez, tout au moins dans plusieurs grandes et moyennes villes au Québec, c'est la présence de partis politiques municipaux. Donc, c'est intéressant de regarder aussi comment, en dehors de Québec et de Montréal, s'il y avait des partis politiques et quelles étaient les stratégies de ces partis et aussi quel type de parti. Alors, je reviendrai un peu là-dessus tantôt pour voir comment 2009 est intéressant a été une élection intéressante à regarder de ce point de vue-là. La détermination ou les déterminants du vote, alors qu'est-ce qui explique les résultats électoraux? Certainement les équipes en place, certainement les candidats notamment à la mairie, ce qui s'est fait dans les années antérieures, bien sûr, lors de l'élection, la composition aussi sociodémographique de ces villes, ce qu'on pourrait appeler un peu l'analyse écologique du vote. Donc c'est un peu tout ça aussi qu'on a regardé à la suite de cette élection de 2009. Et enfin, les styles de leadership local. En quoi l'élection nous permet-elle de qualifier ou caractériser ce qui distingue notamment les maires qui sont élus, quelles sont leurs caractéristiques, leur style de leadership. Et sur ce plan-là aussi, les résultats de 2009 sont assez intéressants, notamment dans les trois villes que nous avons regardées, mais aussi par comparaison avec les autres villes observées par nos collègues. Ces résultats, pas seulement ceux dans les trois villes que nous avons analysées, mais ceux dans les 9 villes, ont fait l'objet d'un ouvrage collectif là, qui est sous presse, donc qui devrait paraître bientôt, espère-t-on, au printemps prochain, et qui sera donc, à mon point de vue, enfin, à notre point de vue, un ouvrage important, puisque ça vient combler, en tout cas, un vide quand même assez important sur la connaissance et puis la vie politique locale, tout au moins dans les grandes villes au Québec. Alors, voilà donc quelques mots. Je laisse la parole à Paul, qui va dire quelques mots sur le portrait socio-économique des trois villes sur lesquelles nous avons travaillé.
Alors, brièvement, portrait socio-économique, portrait institutionnel, pour mettre les choses un peu en contexte. Alors, ce qui se dégage de ces données-là, c'est qu'on a une première ville, Lévis, qui a les meilleures performances par rapport aux deux autres sur des indices, par exemple, comme le taux d'emploi ou la croissance de la population. Typiquement, une ville de banlieue, la rive sud de Québec, qui se tire assez bien d'affaires, que ce soit par rapport au chômage, que ce soit par rapport au revenu moyen. Hein. La ville de Québec, sur ses indicateurs, est pas loin derrière, se comporte assez bien aussi. Par exemple, le revenu personnel par habitant est à peu près le même à Lévis et à Québec. Il est plus bas à Trois-Rivières. La moyenne pour le Québec, c'est 33 000. Alors, Trois-Rivières est même en bas de la moyenne. Mais même si Trois-Rivières connaît toute une période de reconversion économique difficile et ça a des incidences au niveau politique, on peut penser que c'est une ville qui va finir par s'en tirer, au moins si on considère sa localisation dans le grand champ urbain de Montréal et des aspects de ce genre-là. Alors, on voit aussi que Trois-Rivières est la ville la plus âgée parmi les trois. Des villes qui, quand on les place dans l'ensemble du Québec, les deux premières, Lévis et Québec, se comportent relativement bien sur des indicateurs comme ceux-là. Trois-Rivières un peu moins. Maintenant, concernant rapidement certaines de leurs caractéristiques géopolitiques, leur position par rapport au milieu géographique où elles se trouvent. Lévis, par exemple, c'est une ville qui est... Il y a une mise en tension à Lévis entre son caractère de capitale régionale, qui n'est pas incontesté parce qu'il y a Saint-Georges-de-Beauce dans la même région qui prend pas mal de place aussi, et banlieue de Québec. C'est surtout la partie ouest de Lévis qui est une banlieue de Québec. Donc, ces deux aspects-là, c'est peut-être bien pour la ville, c'est peut-être un avantage d'être à la fois membre, par exemple, de la communauté métropolitaine de Québec et d'être impliqué dans la région Chaudière-Appalaches. C'est peut-être un avantage. Politiquement, ça a certaines conséquences. Québec est aussi une ville un peu à l'interface. On aime dire que Québec fait partie du Canada central, le corridor de Québec à Windsor, quand on parle de TGV ou de projets de ce type-là. Mais c'est aussi la plus occidentale des villes de l'Atlantique. Moi, je suis assez vieux pour me souvenir qu'à l'époque du ministère de l'expansion économique régionale, à la fin des années 60, Québec faisait partie de la région Atlantique, qui était une région soutenue tout particulièrement avec des subventions spéciales, parce que c'était la région qui traînait de la patte dans l'ensemble canadien. Et... notre système d'autoroute est dû en grande partie à ça. On a été lourdement subventionné par le fédéral pour le construire à cette époque-là. Alors, Québec, donc, a des enjeux de ce type-là. Trois-Rivières, ben, son positionnement entre Québec et Montréal. Par exemple, quand on parle de TGV, le TGV va très certainement arrêter à Trois-Rivières. Ça se peut pas que le TGV passe, s'il passe sur la rive nord, qu'il n'arrête pas à Trois-Rivières, mais c'est ce caractère-là. De localisation à l'intérieur du grand champ urbain de Montréal, un peu comme Drummondville et Sherbrooke. Présentement, Trois-Rivières a beaucoup de difficultés à se remettre sur pied. Il y a une conversion économique, l'industrie des pâtes et papiers va pas très bien. Mais on peut penser qu'il y a des signes qui montrent que la ville va finir par s'en tirer. Maintenant, au niveau inframunicipal, à l'intérieur de la ville, l'opération de restructuration municipale s'accompagne d'un processus d'intégration au niveau territorial. Et on peut lire le degré d'avancement de ce processus-là dans le vote, jusqu'à quel point on vote différemment ou en bloc dans certains coins. Par exemple, pour ce qui est de Lévis, c'est la fusion entre deux MRC, Desjardins puis Chute de la Chaudière, et l'intégration est en train de se faire et elle se fait quand même assez facilement. Et c'est un peu la même chose à Québec. Ça se passe beaucoup mieux qu'à Montréal, par exemple, toute la préfusion. Là. À Québec, quand Mme Boucher a été élue mairesse de Québec, ça a contribué énormément à diminuer beaucoup les tensions entre les quartiers centraux et les banlieues qui sont maintenant dans la ville. Alors, cette intégration-là va assez bien aussi. Et à Trois-Rivières aussi, la ville se situe de part et d'autre de la rivière Saint-Maurice. Là, et puis au début, là, tout de suite après la fusion, ça votait différemment des deux côtés de la rivière. Mais maintenant, c'est beaucoup moins le cas. C'est plus intégré. Au plan institutionnel, tout simplement un rappel rapide de certaines données. À Québec, c'est l'ancienne communauté urbaine. Là, donc, il y avait 13 municipalités qui ont été fusionnées. À Lévis, 10 municipalités. À Trois-Rivières, 6. Les arrondissements, au départ, il y en avait 8 à Québec. Maintenant, il y en a 6. À Lévis, 3 arrondissements, mais avec peu de compétences. Et c'est resté 3 arrondissements. Et à Trois-Rivières, il n'y a pas d'arrondissement. Alors, il y a des différences comme ça entre les villes. Puis si on regardait les 6 autres villes parmi les plus de 100 000, là, on verrait des choses aussi. Le nombre de districts électoraux a diminué à Québec de 39 à 27, tandis qu'à Lévis et à Trois-Rivières, il est resté le même. Il y a eu, on s'en souvient, 2 diffusions ici à Québec, Saint-Augustin et l'ancienne Lorette, tandis qu'il n'y a eu aucune diffusion à Lévis et à Trois-Rivières. Les compétences, les nouvelles villes, par exemple, quand à Lévis, on assiste à la fusion de 2 MRC, ben, les nouvelles villes recueillent les compétences des MRC, par exemple, concernant la loi sur l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Ici, dans la région, on a une communauté métropolitaine, tandis qu'à Trois-Rivières, il n'y a pas de communauté métropolitaine. Alors, ça fait un rapide tour d'horizon. Maintenant, si on regarde rapidement la carte de chaque ville. On voit ici les 3 arrondissements de la ville de Lévis. La rivière Chaudière est ici, le pont est ici. Et ce qu'on peut noter, c'est l'éclatement. Hein. Ce sont 10 municipalités qui étaient quand même assez isolées les unes des autres alors qu'ils fusionnent. C'est un territoire qui n'est pas nécessairement facile à conceptualiser, là, qui est assez déstructuré, qui a une structure assez éclatée. Mais ça n'empêche pas la ville d'avoir des comportements assez homogènes. C'est une ville de classe moyenne assez nettement. Alors, si on regarde maintenant Québec, la situation actuelle avec les 27 districts et les... Regardez, à Québec, les noms des arrondissements évoquent les noms des anciennes municipalités, tandis qu'à Lévis, on n'a pas eu besoin de faire ça. On a pris les noms des anciennes MRC et ça indique peut-être que dans le cas de Québec, il fallait faire certaines concessions identitaires aux anciennes municipalités. À Trois-Rivières, il n'y a pas d'arrondissement. Alors, l'ancienne ville de Trois-Rivières était ici. On a donné des noms au district. L'ancienne ville était ici. Trois-Rivières-Ouest est à côté. Cap-de-la-Madeleine est de l'autre côté de la rivière Saint-Maurice. Et donc, c'est ces 3 villes-là qui ont fusionné avec 3 villes périphériques, Pointe-du-Lac, Saint-Louis-de-France et Sainte-Marthe. C'était le cœur de la MRC de Francheville. Voilà. Alors, je redonne la parole à Serge.
Merci, Paul.
Alors, l'objectif des trois dernières diapos, au fond, c'était de présenter un petit peu la toile de fond. La toile de fond socio-économique et la toile de fond institutionnelle pour essayer de mieux comprendre un petit peu ce qui s'est passé sur le plan électoral. Alors, quel est le portrait politique à l'occasion du lancement de l'élection de novembre 2009? Alors, ça ressemble un peu à ceci. Donc, un rappel d'abord sur la situation politique en 2005. Qu'est-ce qui s'est passé? Du côté de Lévis, Mme Marinelli a été élue la première fois mairesse de Lévis en 2005. Elle était chef d'un nouveau parti qui s'appelait Lévis Force 10. En 2005, Mme Marinelli est élue mairesse contre Jean Garon. On se souviendra que Jean Garon s'était représenté, élu en 2001, s'était représenté en 2005, mais battu par Mme Marinelli en 2005. Mme Marinelli et son parti font élire 6 conseillers sur les 15 postes de conseillers. Il y a 2 autres partis qui sont présents en 2005, Démocratie Lévis puis Action Lévis, qui vont remporter 4 sièges. Et les autres sièges vont à des conseillers indépendants. Donc, en 2005, les indépendants sont quand même assez bien représentés à la table du conseil municipal et Mme Marinelli dans une situation de mairesse minoritaire. À Québec, Mme Boucher est élue en 2005. On se souvient qu'elle avait été battue en 2001. Elle s'était présentée contre M. Lallier. M. Lallier, le maire sortant, avait été réélu. Elle se présente en 2005. Elle est cette fois élue pour la première fois, donc elle devient la première femme mairesse de la ville de Québec. Il faut rappeler que M. Lallier ne s'était pas présenté en 2005, hein. Il avait quitté la vie politique, donc c'était un nouveau candidat qui se présentait à la succession de M. Lallier, qui était Claude Larose. Le renouveau municipal de Québec, donc, perd cette élection, dans le sens où son candidat à la chefferie est défait à la mairie. Mais le renouveau municipal de Québec, qui donc est le parti de M. Lallier, en fait Claude Larose, fait quand même élire 24 conseillers sur 37. Donc, le renouveau municipal détient la majorité, donc forme l'opposition officielle au conseil municipal en 2005. Souvenons-nous que, exceptionnellement, nous avons eu à Québec une élection partielle en 2007. La raison étant que Mme Boucher est décédée en exercice au mois d'août 2007. Donc, nous avons eu une élection à la mairie uniquement en décembre 2007. Et c'est à cette occasion que M. Labeaume, candidat indépendant à ce moment-là, contre 14 autres candidats à la mairie, est élu maire de Québec, si ma mémoire est fidèle, avec 69 % des voix en 2007, contre à peu près 30 % à Anne Bourgette, qui était devenue la chef du renouveau municipal et qui se présentait à la mairie, ce qui veut dire qu'il restait à peu près rien pour les 13 autres candidats. Donc, la lutte s'est faite vraiment entre M. Labeaume et Mme Bourgette. Du côté de Trois-Rivières, en 2005, c'est la réélection de Yves Lévesque, qui avait été élu la première fois en 2001 maire de la nouvelle ville de Trois-Rivières. C'est un maire indépendant. Comme tous les conseillers, d'ailleurs, officiellement, sont indépendants à Trois-Rivières. Donc, on n'a pas de parti politique municipal en 2005, non plus qu'avant, à Trois-Rivières. Sauf que vers la fin du mandat de Yves Lévesque, quelque part en début 2009, il commence à se former une alliance informelle entre 4 conseillers indépendants qu'on appelle le groupe des 4. Donc, il y a une première, construction d'opposition au maire Lévesque là, vers la fin du mandat de 2005. Mais M. Yves Lévesque, bien qu'il n'ait pas une équipe ni un parti, a quand même une majorité au conseil dans le sens où il y a des fidèles, des conseillers fidèles là, qui font alliance avec lui, de sorte qu'il réussit quand même à faire passer ses projets. Donc, ça, c'est la situation en 2005 et en même temps à l'aube de l'élection de 2009. Donc, les forces en présence en 2009, à Lévis, Mme Marinelli est toujours candidate à la mairie. D'ailleurs, elle sera la seule. C'est la raison pour laquelle elle sera élue par acclamation. Son parti, Lévis Force 10, présente des candidats dans chacun des districts, donc 15 candidats pour la Lévis Force 10. Action Lévis, l'autre parti qui reste en 2009, présente 10 candidats, donc dans 10 districts, sauf à la mairie, donc aucun candidat. Et on retrouve sur les rangs 8 candidats indépendants qui se présentent dans les différents districts de la ville. Ça, c'est la situation à Lévis. Du côté de Québec, en 2009, M. Labeaume devient un candidat partisan. En 2007, il était un candidat indépendant. Mais en 2009, il se présente au sein d'un parti qu'on appelle une équipe, l'équipe Labeaume. Il présente des candidats dans chacun des districts, donc 27 candidats. Lui-même, bien sûr, est candidat à la mairie. On a un nouveau parti qui arrive dans le décor en 2009, qui est le Défi vert de Québec, qui présente un candidat à la mairie et qui présente aussi 19 candidats pour les 27 postes de conseillers à pourvoir. Le renouveau municipal de Québec est toujours présent, mais avec beaucoup de difficultés. Le renouveau municipal ne présente pas de candidat à la mairie et présente seulement 11 candidats sur les 27 postes de conseiller à pourvoir, ce qui est une bonne illustration des difficultés vécues par le renouveau municipal depuis la défaite de 2005 et depuis l'élection de Régis Labeaume en 2007. En fait, le renouveau est en difficulté. Et on retrouve 37 candidats indépendants, pas nécessairement à chacun des postes de conseiller. Il y a des candidats indépendants, plusieurs candidats indépendants dans quelques-uns des postes de conseiller. Mais ce qui montre bien, en fait, que ce qu'on n'avait pas vu à Québec depuis fort longtemps, c'est-à-dire un certain engouement ou un certain retour à des candidats qui se présentent indépendants. Du côté de Trois-Rivières, on a le maire sortant, Yves Lévesque, qui se représente en 2009, toujours sur un mode indépendant, officiellement, bien qu'on sait que certains des conseillers qui se présentent sont de son équipe informelle. On a pour la première fois à Trois-Rivières un premier parti politique municipal qui va naître peu avant l'élection de novembre 2009, qui s'appelle Force 3R, donc qui a été construit dans les mois qui ont précédé l'élection. Et ce parti présente un seul candidat à la mairie, donc qui est André Carl, et aucun candidat pour les 16 postes de conseiller. Pour quelle raison? On imagine qu'on a peut-être eu un peu de difficulté à convaincre des gens de se présenter pour ce nouveau parti. Un seul candidat s'est dit « moi, je me présente à la mairie », donc qui est un architecte relativement connu à Trois-Rivières parce qu'il a été un militant, ou enfin, il a été assez bien impliqué dans le mouvement environnemental à Trois-Rivières. Donc, il fait le saut en politique et décide de se présenter, de porter les couleurs de Force 3R à la mairie. On a 33 candidats qui se présentent comme indépendants dans les 16 postes de conseiller à pourvoir, dont 13, officieusement, sont favorables au maire. Alors voilà la situation, donc, des forces politiques en présence en 2009. De quoi a-t-on parlé au cours de cette campagne? Rapidement, à Lévis, la campagne, notamment de Mme Marinelli, sera beaucoup axée sur ses réalisations passées, ce qui nous fait dire que son programme a été un programme de gouvernement, en quelque sorte, dans la mesure où on est bien implanté. Mme Marinelli, à ce moment-là, sait qu'elle sera élue par acclamation parce qu'il n'y a pas d'autres candidats, donc elle a une grande assurance. La campagne porte beaucoup sur Mme Marinelli, même si elle est déjà élue, c'est elle qui porte essentiellement l'élection et qui porte son parti. On va parler d'infrastructure, donc on va annoncer des projets de réfection, de réhabilitation des infrastructures, d'équipements. On va parler de fiscalité. Mme Marinelli dit on va s'assurer que les taxes augmentent pas trop. Les partis d'opposition, eux, vont reprocher à Mme Marinelli d'avoir haussé le fardeau fiscal des contribuables. Et on va parler aussi d'environnement. Donc, l'environnement est relativement présent dans cette campagne. Donc, on fait différents engagements pour verdir la ville. Du côté de Québec, un des maîtres mots de la campagne électorale d'équipe Labeaume, c'est la performance municipale. Donc, il faut améliorer l'efficacité, l'efficience des services municipaux. Il faut faire en sorte que les citoyens en aient pour leur argent. Donc, il faut améliorer les services sans augmenter trop les dépenses. Là aussi, les infrastructures sont vraiment au cœur de la campagne. On en a eu un avant-goût hier, puisqu'il est question dans cette campagne aussi de construire un amphithéâtre, notamment. Mais il y a beaucoup d'autres choses que l'amphithéâtre. C'est aussi beaucoup le rattrapage à faire dans la réhabilitation des infrastructures routières, notamment. Et aussi la rénovation de centres communautaires, etc. L'amphithéâtre est en partie au cœur de cette campagne électorale. Enfin, M. Labeaume en fait un engagement. Et on parle aussi beaucoup d'environnement, pas seulement M. Labeaume, mais le défi vert de Québec, entre autres. Essentiellement, le programme électoral du défi vert de Québec repose essentiellement... C'est un programme vert, un programme environnemental. On veut verdir la ville. Donc, essentiellement, son programme repose sur cet engagement-là. Le renouveau municipal de Québec n'est pas très présent au cours de cette campagne. Ça s'explique qu'ils n'ont pas de candidat à la mairie. Et quand tu n'as pas de candidat à la mairie, c'est difficile d'avoir une visibilité et de faire porter ton discours. Mais quand même, il y a quelques communiqués de presse. On insiste pour dire qu'on va continuer à développer si on est élu, bien qu'à 11 candidats, de toute façon, ils n'auront jamais la majorité, mais que les candidats, s'ils ont élu, vont essayer de défendre la démocratie de participation qui a toujours été un peu le fleuron du renouveau municipal de Québec ou du Rassemblement populaire avant le renouveau municipal. Du côté de Trois-Rivières, M. Lévesque, Yves Lévesque, maire sortant, un peu comme la mairesse Marinelli à Lévis, fait reposer son programme essentiellement sur ses réalisations passées. Voici ce que j'ai fait, et ce que j'ai fait est garant d'avenir. Donc, vous pouvez être certain que sur la base de ce que j'ai fait, que je vais continuer à développer la ville de Trois-Rivières. C'est un discours qui est un peu comme celui de M. Labeaume à Québec, un discours qu'on pourrait qualifier de très entrepreneurial, c'est-à-dire que Yves Lévesque dit « il faut créer de la richesse ». Il faut attirer à Trois-Rivières des investissements nouveaux. Lui aussi parle d'un vaste projet de réaménagement qu'on appelle Trois-Rivières sur Saint-Laurent, qui est un immense projet sur lequel on retrouverait un centre multifonctionnel et beaucoup d'investissements qui se feraient avec le privé. Une bonne partie de la campagne est basée ou repose là-dessus. Donc, créer de la richesse, créer des emplois. Et ça s'explique parce que, un peu ce que Paul disait tantôt, en nous rappelant qu'à Trois-Rivières, ça va un petit peu moins bien, bien que la situation se soit améliorée au cours des dernières années, il reste quand même que Trois-Rivières a connu des difficultés sur le plan économique beaucoup plus accentuées que ce qu'on peut observer à Lévis et à Québec. Le projet Trois-Rivières sur Saint-Laurent, donc, qui est un peu au cœur de cette campagne parce que l'opposition au maire Lévesque, donc par la voix d'André Carle, le candidat à la mairie de Force 3R, va précisément faire reposer en partie son discours en disant que c'est un projet qui n'est pas bien ficelé, c'est un projet qui est improvisé, c'est un projet qui risque aussi d'avoir un impact négatif sur l'aménagement, l'environnement de la ville. Donc, on va attaquer ce projet-là. On va aussi beaucoup attaquer Yves Lévesque sur la question éthique. Il s'est passé des choses, effectivement, à la mairie. Certaines décisions, pendant le dernier mandat de Yves Lévesque, certains se posent des questions sur certaines nominations, certains contrats qui ont pu être attribués, qui respectaient peut-être pas toujours les normes en vigueur. Donc, on va miser beaucoup aussi sur les manquements à l'éthique. Qu'on reproche à Yves Lévesque et son équipe. Parti F3R fait reposer aussi une bonne partie de son discours électoral sur « il faut à Trois-Rivières favoriser, renforcer la consultation et la participation des citoyens ». Donc, on reproche beaucoup à Yves Lévesque de prendre des décisions un peu en cachette et de ne pas consulter les citoyens. Donc, le discours de F3R, c'est de mettre fin à ça et de redonner la parole aux citoyens. Que retenir, en gros, de ces trois campagnes électorales? À Lévis, la mairesse Marinelli, réélue par acclamation, il faut le noter, c'est un fait exceptionnel dans les grandes villes du Québec. Les seuls cas dont on a souvenir d'un maire qui aurait été réélu par acclamation, c'est à Québec, en 73, M. Lamontagne, Gilles Lamontagne, réélu par acclamation. Et avant M. Lamontagne, en fait, c'était Wilfrid Hamel, en 1962. C'est les deux seuls maires dans les années 1960 à aujourd'hui, qui ont été élus par acclamation dans une grande ville. Donc, on ne connaît pas d'autres exemples. Alors, ça demeure un fait exceptionnel. C'est une campagne qui est relativement terne aussi, du fait que la mairesse a été réélue par acclamation. Déjà, ça enlève beaucoup de piquant à la campagne. Ça favorise aussi les candidats des candidats sortants de Mme Marinelli. Donc, c'est une campagne qui repose essentiellement sur le discours de Mme Marinelli. L'opposition aura beaucoup de difficultés à essayer de prendre l'initiative dans cette campagne. Du côté de Québec, les faits saillants à retenir, c'est la déconfiture du renouveau municipal de Québec, la difficulté à se réorganiser suite à la défaite de 2005 et suite à l'élection de M. Labeaume. On sent que le renouveau municipal ne s'est jamais relevé, au fond, du départ même de Jean-Paul Lallier. On ne pourra pas refaire l'histoire, mais souvenons-nous qu'il y a eu des lendemains difficiles à la suite à l'élection de M. Larose comme premier chef qui a succédé à M. Lallier, et ensuite Mme Bourgette qui a succédé à Claude Larose. Ça a été difficile au sein du renouveau entre un peu les anciens et les nouveaux, de sorte que beaucoup ont quitté le parti. Et ça explique un peu la difficulté du renouveau à trouver des candidats pour se présenter dans chacun des postes à pourvoir et l'absence de candidats à la mairie pour le renouveau. Aussi des candidats qui ont quitté le renouveau pour joindre les rangs d'équipe Labeaume, alors ce qui venait compliquer beaucoup également la tâche du renouveau. Le rôle des médias sociaux, un mot là-dessus pour dire que c'était présent un peu en 2007 et un peu en 2005. Mais en 2009, quand on observe un peu le déroulement de l'élection, les médias sociaux, Facebook, Twitter, etc., ont joué un rôle important. Donc, pour une des premières fois, ces nouveaux modes de communication ont fait leur apparition et sont devenus relativement stratégiques dans l'organisation des campagnes électorales au niveau municipal. Alors, donc, je pense que c'est, il faut le mentionner. Bon, dans quelle mesure ça a eu un impact en termes de vote, ça c'est plus difficile à dire. Mais certainement qu'ils ont joué un rôle important et ils ont été beaucoup plus présents que ce qu'on avait pu observer dans le passé, et probablement qu'ils le seront encore davantage dans les années à venir. À Trois-Rivières, une présence discrète du maire. Le maire Lévesque a fait très peu de conférences de presse, de rares apparitions. Je dirais que la visibilité était beaucoup sur le chef de Force 3R, qui en a profité précisément pour tenter justement de présenter un nouveau discours, de défendre son programme. Les attaques d'André Carle contre le maire sortant ont été des attaques, entre guillemets, musclées, vraiment, des attaques à la fois personnelles, mais aussi des attaques sur le style de gestion et sur les décisions prises par Yves Lévesque et par le conseil municipal au cours du dernier mandat. Alors voilà en gros donc la situation, le portrait politique et ce qui s'est passé au cours de ces trois campagnes électorales dans ces trois villes. Les résultats, qu'est-ce qui s'est passé donc le jour du vote? Donc mairesse réélue à Lévis, on le sait. Du côté de Québec, M. Labeaume est réélu avec 80% des suffrages, c'était 69% à peu près en 2005, donc il a augmenté considérablement son appui. Le reste des voix est allé, s'est réparti à peu près également entre Jeff Filion, qui était candidat à la mairie, et puis le chef du Défi vert de Québec, Yanel Bonaventure, donc qui ont remporté à peu près chacun 8%. Des voix. Alors, ce qui montre bien, effectivement, la force et la popularité très grande de Régis Labeaume en 2009. C'est pratiquement un record, je pense, de mémoire, pour un maire d'avoir obtenu un appui aussi élevé à la suite d'une élection générale. Du côté de Trois-Rivières, Yves Lévesque, donc le maire sortant, est réélu. Sauf qu'il est réélu, mais avec 55% des suffrages, alors qu'il en avait obtenu 69% en 2005. La différence des voix allant à son seul adversaire, donc qui est André Carle du parti F3R, qui finalement fait une bonne performance malgré tout pour une première apparition et pour un parti qui n'est pas très bien organisé. Ce qui montre aussi que Yves Lévesque, donc dans les mois qui ont précédé cette élection, est un peu en difficulté et son étoile a commencé un peu à pâlir là, dans les mois qui ont précédé cette élection. Dans les postes de conseiller, les résultats, à Lévis, Mme Marinelli et son parti réussissent à faire élire 14 conseillers sur 15. Donc, c'est presque la quasi-totalité des sièges au conseil représentés par Mme Marinelli et son parti. 9 conseillers sortants sont réélus,
alors, dont deux par acclamation, alors, ce qui montre bien, là aussi, qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements sur le plan de la composition du conseil municipal de ce côté. Action Lévis, qui était le seul parti en présence, ou présence sur la ligne de départ, mord la poussière, donc réussi à faire élire aucun candidat. Et un seul candidat indépendant est élu dans le district numéro 15. Je pense que c'est dans Desjardins, l'arrondissement Desjardins. Donc, le seul district qui a échappé à l'équipe ou parti de Mme Marinelli. Du côté de Québec, équipe Labeaume remporte presque tous les sièges, donc 25 sur 27, les deux qui réussiront à... qui échapperont à Équipe Labeaume, c'est dans Montcalm, Mme Guérette, et puis dans Saint-Sacrement, M. Bussière, donc qui sont les deux seuls rescapés de la vague Équipe Labeaume en 2009. Donc deux indépendants, et 15 conseillers sortants sur 28 sont réélus, ce qui montre aussi la force quand même des candidats sortants à la suite de cette élection. Du côté de Trois-Rivières, entre guillemets, l'équipe Lévesque conserve 9 postes sur 16. Donc, Yves Lévesque reste majoritaire officieusement avec ses conseillers qui lui sont fidèles. On a l'élection, par ailleurs, de 3 indépendants qui vont, dans les mois qui ont suivi l'élection de 2009, qui vont joindre le groupe des 4 auquel je faisais référence tout à l'heure pour former maintenant le groupe des 7. Alors, c'est toujours pas une équipe, c'est pas un parti non plus. Hein, ce sont 7 conseillers indépendants qui font front commun au conseil municipal, pas toujours, mais à l'égard de certaines décisions. Donc, il y a un début là aussi d'une opposition organisée, mais qui ne porte pas encore le titre ou le nom d'un parti politique. On a 12 conseillers sortants sur 16 qui sont réélus, là aussi, donc un conseil municipal qui n'a pas beaucoup changé, sauf pour ce qui est des 3 indépendants qui ont été élus et qui rejoignent le groupe des 4 qui existait à la fin du dernier mandat d'Yves Lévesque. Les faits saillants des résultats de l'élection, c'est la percée de Lévis Force 10 dans l'arrondissement Desjardins. En 2005, en fait, les districts qui avaient échappé à Mme Marinelli, c'était notamment les districts dans l'arrondissement Desjardins, là où se trouve l'ancienne ville de Lévis. En 2009, Mme Marinelli réussit à aller chercher la presque totalité de ces districts, ce qui montre bien, au fond, qu'en 2009, le pouvoir de Mme Marinelli s'est étendu ou s'est diffusé vers l'Est. Il était déjà relativement bien présent dans les banlieues de l'Ouest, Mme Marinelli étant une ancienne mairesse de Saint-Jean-Chrysostome. Donc, elle était relativement bien connue, mais moins connue dans l'arrondissement Desjardins. Mais en 2009, son parti fait bonne figure et réussit donc à gagner la presque totalité de ses districts. Fait à noter, la bataille dans un des districts, dans le Vieux-Lévis, qui est la présence de Gaston Cadrin, qui est quelqu'un de très connu, en tout cas très certainement, à Lévis, pour avoir présidé pendant de nombreuses années le GIRAM, le groupe d'initiative c'est un groupe qui se préoccupe d'environnement et qui est très présent depuis longtemps. Et Gaston Cadrin a présidé longtemps ce groupe. Et il s'est présenté, donc, en 2009, dans un des districts. Et il a perdu l'élection. C'est le candidat de Lévis Force 10 qui l'a emporté, mais de très peu, 34% contre 32%. C'est là où il y a eu une bataille locale, ou une lutte locale, si vous voulez, à l'intérieur de la nouvelle ville de Lévis, puisque ailleurs, donc, il n'y a pas eu de changement ou de lutte très importante. À Québec, équipe Labeaume est forte en banlieue et au centre-ville. Alors ça, c'est un fait remarquable parce que, là aussi, un peu ce que rappelait Paul tout à l'heure, l'opposition ville-centre-banlieue s'était beaucoup estompée avec l'élection de Mme Boucher en 2005. On peut dire qu'avec l'élection de Régis Labeaume en 2007 et surtout sa réélection en 2009, on peut dire que maintenant, le vote dans les banlieues est un vote qui rassemble beaucoup à celui des électeurs du centre-ville et qui explique donc la popularité et la grande force de l'équipe Labeaume, puisque l'équipe Labeaume donc étend ses tentacules dans l'ensemble des districts qu'on appelait à l'époque les anciennes ou les banlieues de Québec. Le fait saillant à retenir, c'est aussi la déroute du renouveau municipal, qui est disparu, en fait, hein, qui s'est disloqué, qui s'est fait raquérir dans les mois qui ont suivi l'élection de 2009, donc qui n'a pas survécu à cette élection de 2009. C'est une perte quand même considérable, j'y reviendrai un peu en conclusion, notamment parce que le renouveau municipal représentait un type de parti qui manifestement est en perte de vitesse, un peu comme à Montréal, ça a été le cas du RCM. C'est un élément important à retenir de cette élection. À Trois-Rivières, donc le maire sortant est en perte de vitesse. Quand on regarde, quand on fait une analyse écologique des résultats du vote à Trois-Rivières, on remarque effectivement que l'appui à l'évêque est en diminution partout. Dans les 16 districts électoraux de la ville. Alors ça, c'est un avertissement au maire Lévesque. Donc ça veut dire qu'il a perdu de ses appuis au profit, donc en partie de F3R, mais en partie aussi des conseillers indépendants qui ont été élus et qui forment aujourd'hui le groupe des 7. La question importante à Trois-Rivières, et c'est ça qui sera intéressant à suivre, hein, c'est l'avenir de ce parti Force 3R. Depuis l'élection de 2009, le parti existe toujours. On ne peut pas dire qu'il est très vigoureux. Est-ce qu'il tiendra le coup jusqu'en 2013, jusqu'aux prochaines élections municipales? Hein? C'est ça un petit peu le point d'interrogation. On ne sait pas. Est-ce que le groupe des 7, lui, va se transformer en parti? Est-ce qu'il pourrait avoir alliance entre le groupe des 7, et le parti F3R? Pour l'instant, on ne sait pas. Rien n'indique que ça va dans cette direction-là, mais peut-être qu'à l'aube de l'élection de 2013, il va se passer quelque chose sur ce plan-là. Le nombre d'élus, de femmes élues, 4 à Lévis, ce qui représente 27 % des sièges, 15 quand même à Québec, il faut le mentionner, 55 % des sièges. Maintenant, on a dépassé la parité hommes-femmes au sein du conseil municipal en faveur des femmes. Et à Trois-Rivières, c'est la parité, très exactement. 8 hommes, 8 femmes se retrouvent au conseil municipal. La participation électorale, donc, elle a été, sauf à Québec, elle a été moindre en 2009 qu'en 2005. Ça demeure une participation électorale relativement faible, naturellement, si on compare à ce qu'on peut observer aux autres niveaux de gouvernement, bien que là aussi, ça a diminué au cours des dernières années. En 2009, on n'a pas réussi à hausser la participation électorale, sauf un peu à Québec, 49 contre 46 % par rapport à 2007. Le tableau ici, c'était pour montrer au fond la progression qu'ont fait les femmes, autant sur le plan des candidatures que sur le plan de l'élection comme telle. Donc, ce qui ressort, c'est que en 2009, les femmes étaient plus présentes comme candidates à peu près partout, sauf exception. Il y a des endroits, c'est assez remarquable. À Sherbrooke, par exemple, c'est 26 %, mais on est passé de 12. Donc, c'est quand même une augmentation intéressante à observer. Et sur le plan des élus, maintenant, est-ce que ces femmes candidates, est-ce que ça se matérialise en termes de représentation effective au conseil municipal? Oui, dans beaucoup de cas. Là aussi, on note quand même une augmentation importante. C'est le cas, bien sûr, à Québec. C'est le cas aussi à Laval. On passe de 38 % à 52 %. Et ailleurs, à Trois-Rivières, 38 à 50 %. L'énigme, ça demeure Saguenay. On ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe à Saguenay. Il faudra regarder ça. Mais donc, de façon générale, les femmes sont en 2009 mieux représentées qu'elles ne l'étaient en 2005 dans les conseils municipaux des grandes villes. Il y a encore du chemin à faire, mais il y a eu quand même amélioration. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette étude des élections de 2009 dans ces trois villes? Nous, on fait l'hypothèse que les fusions ont favorisé le style de maire fort et de maire entrepreneur. De maire fort dans le sens où les fusions n'ont pas eu seulement pour effet d'agrandir le territoire de ces nouvelles villes, mais les fusions ont eu pour effet aussi de renforcer la capacité administrative, la capacité politique de ces nouvelles villes. À Québec, quand on passe de 170 000 habitants à 500 000, à Lévis, quand on passe de 40 000 à 130 000, à Trois-Rivières, quand on passe de 40 000 habitants à 125 000, et si on traduit ça aussi en termes de nombre de fonctionnaires, en budget également. Donc, autrement dit, les villes sont devenues, entre guillemets, des instruments de transformation, de représentation, bien sûr, mais aussi de transformation socio-économique relativement important. Et les maires qui se retrouvent à la tête de ces nouvelles villes sont des maires qui sont beaucoup plus visibles qu'auparavant, probablement parce qu'on n'a plus les maires de banlieue comme on avait avant les fusions. Donc, ils se retrouvent forcément presque seuls sur la place publique locale. Donc, ça leur confère aussi une notoriété, une visibilité beaucoup plus grande. Donc, d'où l'idée de maire fort, au sens d'un leadership qui est centré beaucoup sur la personne ou la personnalité du maire, et de maire entrepreneur, dans la mesure où on peut avoir maintenant, on peut s'appuyer sur les nouvelles villes pour avoir des visées ou des visions de développement plus grande que celle qu'on avait dans l'ancien système. À Québec, c'est notoire, là, avec les engagements qui ont été pris, avec le programme de M. Labeaume, qui repose beaucoup sur le positionnement économique de Québec à l'échelle nationale et internationale. C'est aussi ce que Mme Marinelli fait à Lévis depuis 2005 et depuis 2009. Lévis a aussi des ambitions de grande ville, et c'est aussi ce que fait Yves Lévesque depuis 2001 avec son programme qui est axé sur le redéveloppement, la reconversion, la diversification et la création de richesses. Donc, sur ce plan-là, on a observé, c'est pas unique à Québec ou au Québec, on observe aussi un peu ce style de leadership dans des villes aussi en Europe où les maires des grandes villes sont devenus des entrepreneurs politiques. Des partis ou des équipes qui disparaissent, c'est le cas d'Action Lévis, c'est le cas du Renouveau municipal à Québec. D'autres aussi qui naissent, c'est le cas d'Équipe Labeaume en 2009 et de F3R en 2009. Donc, ça montre au fond que les partis politiques municipaux demeurent des organisations relativement fragiles. Les exceptions ou l'exception qui confirme la règle, c'est le Rassemblement populaire et qui est devenu le Renouveau municipal de Québec. Le RP existait depuis 1977. C'est une exception. C'est un des seuls partis avec le RCM à Montréal qui a vécu ou qui a passé au travers plusieurs élections, mais qui sont disparus, qui ont été remplacés. Ce qui montre au fond que les partis sont utiles. Ils demeurent des instruments de représentation et de gestion des villes importants. Mais en même temps, l'élection de 2009 montre que ces partis se transforment et que certains partis ou certains types de partis tendent à disparaître. C'est le cas du Renouveau municipal de Québec qui représentait ce que Louise avait appelé il y a déjà de nombreuses années les partis de type populaire, fondés sur un membership, sur des militants, sur des réunions, des congrès au programme, donc avec une base de représentation, une démocratie, etc. Ces partis disparaissent ou sont disparus, et on voit apparaître ou réapparaître ou un retour en force des partis de type plutôt centralisé. Duverger appelait ça à l'époque, il y a très longtemps, des partis de cadre par opposition à des partis de masse. Je pense que je pense que l'image, ou en fait la distinction, me semble encore vraie. Donc, des partis qui sont plutôt pragmatiques, plutôt opportunistes par rapport à des partis qui étaient plus programmatiques auparavant. Donc, c'est une différence importante. Et ça montre au fond que les élites politiques locales aujourd'hui continuent à se regrouper, mais autour de structures qui sont devenues beaucoup plus programmatiques, qui servent à recueillir de l'argent et qui servent à gagner des élections et qui, une fois au pouvoir, servent bien sûr à maintenir des majorités au conseil municipal. Mais sinon, en dehors de ça, ces partis n'ont pas de vie. Hein. Il y a pas de, comme c'était le cas, par exemple, au renouveau municipal ou comme c'était le cas au Rassemblement populaire. Les partis demeurent utiles, donc, pour gagner, se maintenir au pouvoir, mais les partis programmatiques sont en perte de vitesse. Augmentation notable du nombre de femmes candidates, c'est ce que montre le tableau qu'on a vu tout à l'heure, notamment à Québec et à Trois-Rivières. En 2009, la démocratie de participation n'a pas été un enjeu électoral, alors que ça l'avait été à maintes reprises dans le passé, sauf peut-être un peu à Trois-Rivières, pour les raisons que j'expliquais, parce que le discours de Force-Trois reposait beaucoup sur le renforcement de la démocratie de représentation, compte tenu de ce qu'on reprochait au maire sortant. Mais à Québec, à Lévis, ça n'a pas été un enjeu. Donc, il semble bien que comparativement aux années 70, 80 et même une bonne partie des élections municipales en 90 dans les grandes villes, on ne parle plus beaucoup de ça, la démocratie de participation. Ça ne veut pas dire qu'on n'y croit plus, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus du tout, mais c'est moins vendeur, entre guillemets, que ça ne l'a déjà été. L'environnement est présent depuis un certain temps, mais il a été très présent en 2009 dans les trois villes, environnement, développement durable, donc est devenu, lui, un thème présent et qui s'est retrouvé au centre d'à peu près tous les discours politiques des forces politiques en présence. Les politiques publiques dévoilées par les programmes sont axées sur les grands projets de développement, donc les infrastructures, les équipements et les grands événements. C'est beaucoup ce qu'on observe à Québec, mais pas seulement à Québec. Le discours politique d'Yves Lévesque et aussi de Mme Marinelli à Lévis en 2009 ont été beaucoup axés effectivement sur le développement, sur les grands projets, la tenue des grands événements. Et on sent bien que les fusions, là aussi, ont eu un impact, c'est-à-dire que les maires cherchent effectivement à positionner leur ville. Alors, on cherche les images de marque. Et les images de marque passent beaucoup, même si c'est beaucoup la symbolique, c'est important en politique, la symbolique, passent beaucoup par ces grands projets. Donc, on vend des grands projets, on veut attirer des grands projets, on veut réaliser des grands projets. Alors, donc, on parlait de ça un peu avant, hein. C'est pas complètement nouveau, mais ça là, je dirais, ça c'est devenu beaucoup plus présent maintenant dans les discours électoraux des forces politiques et des candidats. Deux politiques aux impacts sociopolitiques incertains, c'est celui de le renforcement de la performance municipale et de la densification du tissu urbain. Dans les trois villes, notamment à Québec, on a parlé beaucoup de performance municipale. Donc, c'est une politique publique, dans le sens de prendre les moyens pour essayer d'améliorer l'efficacité et l'efficience, mais c'est une politique publique dont le discours retient beaucoup l'attention des électeurs, parce qu'on y associe beaucoup le fait de décider de réduire les dépenses et donc de demander plus de la fonction publique, mais ce sont des engagements qui sont difficiles par ailleurs à matérialiser ou à obtenir, parce que là, ça signifie effectivement en grande partie de renégocier les conventions collectives, ce qui n'est pas nécessairement facile au niveau municipal. Donc, ce sont des engagements ou des politiques publiques dont on ne peut pas observer les effets à court terme. Hein, c'est plutôt des engagements sur le moyen et le long terme. La densification du tissu urbain, là aussi, dans les grandes villes, notamment à Québec, c'est devenu en partie un aspect très important ou un élément très important du programme, notamment de M. Labeaume. C'est que même si on a agrandi beaucoup le territoire des villes par les fusions, il reste que le développement va se faire beaucoup par la densification du tissu urbain existant. Et ça, c'est pas facile, parce que là, forcément, il faut amener les résidents de ces quartiers dont on veut densifier le développement à accepter qu'on construise en hauteur, par exemple, accepter qu'on revoie, par exemple, le réseau routier, etc. Et donc, c'est plus difficile à obtenir. Pourquoi est-ce qu'on veut faire ça? Ben, c'est qu'on veut, bien sûr, faire en sorte que le développement ou les investissements restent dans la ville, plutôt que ces investissements se fassent à l'extérieur des limites, et parce que ces investissements sont bien sûr générateurs de nouvelles entrées de taxes ou de revenus pour les nouvelles villes. Alors voilà en gros, rapidement, j'ai dépassé déjà mon temps, ce qu'il y a à retenir de ces élections de 2009 dans ces trois villes. Alors nous sommes maintenant disponibles pour répondre à vos questions, réagir à vos commentaires. Alors avec Louise, Marc-André et puis Paul.
Je voulais juste vérifier, vous avez parlé, bon ça, de vous avez fait un portrait assez bref, mais quand même pas bref, un portrait détaillé justement au niveau des élections et puis de différents partis politiques. Au Québec, on peut parler que la politique se structure essentiellement au niveau de la distribution des partis des idéologies autour d'un clivage entre les souverainistes et les fédéralistes. Donc c'est l'élément structurant de la politique au Québec. Diriez-vous que au niveau des municipalités, il existe peut-être des valeurs ou des situations justement qui tendent justement donc à créer des clivages idéologiques ou qui articulent des partis peut-être au même titre que ce qui se passe à l'échelon provincial?
Ben, des clivages idéologiques, certainement. Je n'irais pas jusqu'à dire que c'est un clivage en tout cas, qui serait aussi évident là, sur le plan souveraineté-fédéralisme, mais clivage idéologique au sens de l'idée qu'on se fait ou de la conception qu'on se fait d'une ville, je dirais que très certainement, ça l'a marqué beaucoup, si on prend l'exemple de Québec, que je connais moins mal là, que les autres, ça a marqué beaucoup la dynamique politique locale depuis certainement le début des années 70, et surtout à partir de la fin des années 70 avec la création du Rassemblement populaire, versus le Progrès civique de Québec, là, qui était le parti de Gilles Lamontagne et de Jean Pelletier. Quand on analyse les programmes électoraux et le discours politique de ces deux forces politiques, manifestement, il y avait en tout cas, un clivage idéologique assez marqué entre l'idéologie qui consiste à dire une ville, il faut développer ça avec des promoteurs, avec des grands développeurs pour attirer le développement et pour générer des revenus de taxes, et un discours qui était celui du RP à l'époque, axé davantage sur une démocratie de participation, sur la création de mécanismes faisant en sorte que les citoyens puissent avoir droit de parole dans les décisions qui sont prises au conseil municipal. Dans le développement aussi des services collectifs comme le transport en commun, par exemple, ou le logement social, par exemple. Donc, je dirais que jusqu'au milieu des années 90, je dirais que ça démarquait de façon assez nette ce que pensaient et ce que disaient ces partis. Ça a été moins vrai par la suite. Je pense qu'il y a eu un rapprochement, même si le renouveau continuait quand même à se démarquer sur la scène politique, on sentait quand même que c'était un parti qui devenait aussi plus pragmatique dans ses engagements. Et je pense qu'en fait, que ça, mes collègues pourront me corriger, là, mais je pense beaucoup que ce rapprochement, je dirais, ou ce clivage idéologique moins prononcé, avait commencé même avec l'arrivée de M. Lallier, lorsqu'il est devenu chef du Rassemblement populaire en 89, à peu près. Déjà, M. Lallier m'a d'ailleurs fait un peu une condition de son arrivée au RP en disant, écoutez, il y a des choses qu'il faudra remiser, là, il y a des choses qu'il faudra faire disparaître du programme. Je ne suis pas à l'aise avec certains des éléments qui se retrouvaient encore dans le programme du RP à l'époque. Donc, déjà, l'arrivée de M. Lallier avait fait en sorte là, de repositionner idéologiquement le RP en lui faisant abandonner, je dirais, les éléments les plus gauchisants, ou les plus à gauche, si on veut, de son programme.
J'ajouterais quelque chose là-dessus. Si on regarde l'histoire des partis politiques municipaux au Québec, on voit qu'il y a une certaine tradition en ce qui concerne le rapport entre la municipalité et le provincial. Et dans l'ancienne histoire du Québec, on disait qu'on était soit du bon bord ou du mauvais bord. Puis sous Duplessis, si vous étiez du mauvais bord, ça allait vraiment pas bien.
On n'avait pas sa dose d'asphalte.
C'est ça. Alors, il y a des leçons qui ont été tirées de ça. Et puis les partis civiques qui ont été les premiers à être formés au Québec, avec Jean Drapeau à Montréal, avec Gilles Lamontagne à Québec, au début des années 60, avant que soient formés les autres partis dits populaires ou plus programmatiques, ces partis civiques-là, ils ont vraiment fait un effort pour aller recruter des membres de différents partis, de différentes allégeances provinciales, justement pour éviter ce danger-là. Là. Puis pour se dire, que ce soit qui est élu au provincial, nous autres, on a quelqu'un qui est capable d'aller leur parler. Et quand le Rassemblement des citoyens de Montréal a été formé en 1973, si ma mémoire est bonne, quelque chose comme ça,
74.
Là, c'est intéressant de voir ce cas-là parce que dans le RCM, ils sont allés chercher des anglophones, des francophones, toutes sortes de monde de Montréal s'est retrouvé. Ils avaient une chose en commun, c'était de promouvoir la démocratie municipale. Il faut voir que c'était le parti du maire Drapeau qui était là depuis longtemps et qui avait créé une situation, qui avait vraiment créé un besoin et puis une aspiration à plus de démocratie, à une réorientation des politiques publiques dans la ville de Montréal aussi. Donc, c'est resté ça. Je dirais que la problématique du rapport entre les partis politiques municipaux et les partis politiques provinciaux ou fédéraux, elle existe toujours. Elle est toujours là, mais on n'en parle pas beaucoup. Mais on sait bien qu'il y a des candidats, il y a des maires en ce moment qui sont approchés. On sait que M. Lévesque, à Trois-Rivières, est approché pour être candidat pour un parti.
Libéral fédéral.
On sait que Mme Roy Marinelli à Lévis a été courtisée par le Parti libéral du Québec, peut-être même par le Parti libéral canadien.
Fédéral, oui, c'est ça. Il a pris sa décision d'aller à la mairie. Oui. Après, elle est allée à Ottawa visiter un petit peu, puis finalement, elle a dit que c'est pas pour elle.
Oui, elle s'est pas trouvé de bel appartement. Donc ça montre bien que c'est connu. En général, au Québec, on dit que le milieu municipal est plus libéral que conservateur en termes de partis provinciaux. Mais on sait aussi que les partis politiques municipaux ne veulent pas être identifiés à un parti politique provincial.
C'est pas quelque chose qu'ils cherchent nécessairement.
Non, ils y ont déjà pensé. Au début des années 70, quand le Parti québécois a été formé, ils ont examiné très sérieusement la possibilité d'avoir des succursales au niveau municipal et ils n'ont pas...
Ça semble être une spécificité un peu québécoise, parce que quand je pense aux élections municipales ou aux élections locales en France ou aux États-Unis, il y a des maires démocrates, il y a des maires républicains. En France, il y a des maires socialistes, des maires UMP. Il me semble que ce serait peut-être une spécificité peut-être un petit peu québécoise à ce moment-là, d'avoir des détachements entre l'échelon provincial ou fédéral et puis l'échelon municipal, je ne sais pas si...
Mais vous comprenez aussi à la base que le parti politique municipal, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent dans les municipalités du Québec aussi. Mm-hmm. Donc, et je crois aussi qu'avec l'absence, peut-être je vais dériver vers votre question initiale, mais je pense que l'absence, de plus en plus on voit de partis programmatiques qu'on appelait, fait en sorte que maintenant le parti repose, on parle même plus de parti, disons, pour le maire là-bas, mais on parle d'une équipe. On parle d'équipe plutôt, donc centré sur le maire. Donc, le clivage d'idéologie, en municipal, je crois qu'il y a une très grande importance de l'image. De qu'est-ce que tu vas projeter? C'est davantage sur l'image que tu vas te faire élire, c'est peut-être un peu gros qu'est-ce que je veux dire, mais c'est davantage sur l'image que qu'est-ce que tu vas dégager, le type de charisme que tu vas avoir, que plutôt le parti que tu vas avoir. Donc, une bouchée arrive, tu as l'image de quoi? D'une Madame Blancheville qui va faire le ménage. Et on regardait en 2005, par exemple, on regardait des sondages de qui va couper le plus les taxes municipales. Tout le monde disait « Ah, Madame Boucher », tandis qu'elle disait ouvertement j'ai pas vraiment de parti, j'ai pas vraiment de parti, j'ai pas vraiment de programme, mais moi, les taxes, je vais les augmenter parce qu'on doit faire des réparations. Donc, le monde s'attache davantage à l'image. Donc, ça fait que le clivage idéologique se fait davantage sur la personnalité de la personne et qu'est-ce qu'il va lui-même véhiculer. Bon, je sais pas si c'est exactement vers où ta question allait, mais...
J'ai commis des bons éléments de réponse de partout. Merci beaucoup.
On va passer notre examen comme ça?
Non, je ne prétendais certainement pas vous faire un examen là-dessus, ça c'est sûr.
Une des questions qui m'est suggérée par une des conclusions, ça enchaîne un peu sur ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous semblez arriver à la conclusion que l'importance du maire entrepreneur et du maire, je dirais, que sa stature prend de plus en plus d'importance dans les trois villes que vous nous avez présentées. C'est assez clair. Est-ce que c'est vrai pour l'ensemble du Québec? Je vous amène entre autres au cas de Montréal où ça m'apparaît un peu moins évident. Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus. C'est quoi les grandes différences entre le paysage politique de Québec et de Montréal au niveau des élections municipales, de la dernière élection municipale, si vous avez les résultats de vos collègues, bien sûr?
Ouais, c'est moins évident du côté de Montréal. Je dirais que ce qui se rapproche un petit peu des trois villes qu'on a présentées, c'est notamment en partie de Côte-Saguenay. Mm-hmm. On a un maire aussi qui est un peu de cette trempe-là, qui est le maire Tremblay, mais qui n'est pas le même Tremblay que Montréal. Mais à Montréal, la situation est très différente, d'une part parce que la situation institutionnelle est très différente. On a des arrondissements aussi à Montréal, comme à Québec,
mais
à Montréal, on a décentralisé énormément. Donc, les arrondissements sont relativement forts. Ce qui fait que, déjà, c'est pas un empêchement, mais c'est un peu plus difficile déjà pour un maire de dominer. On a des maires d'arrondissement à Montréal, ce qu'on n'a pas ici. Ici, on a des présidents d'arrondissement. À Montréal, les arrondissements sont élus, les maires d'arrondissement sont élus au suffrage direct. On n'a pas ça ici, là. Alors, ce qui veut dire que le maire de la grande ville partage en partie son pouvoir avec les maires d'arrondissement. Et sur ce temps-là, la décentralisation inframunicipale explique en partie un peu les difficultés. Ça, c'est une chose. L'autre chose aussi, c'est que la vie politico-administrative est plus complexe à Montréal. On a plusieurs étages à Montréal. On a plusieurs ici à Québec, mais on a plusieurs à Montréal. Et l'agglomération de Montréal, c'est 78 villes. Ici, c'est 28. Donc, les choses sont un peu plus compliquées. On a des maires à Montréal qui sont des maires très forts. Le maire de Laval, même s'il a perdu quelques plumes, là, le maire Vaillancourt reste, à mon avis, un des maires les plus forts au Québec et le plus fort, à mon point de vue, du côté de Montréal, davantage que le maire de Montréal comme tel. Donc, ça aussi, ça jette de l'ombre, ça complique un peu le leadership et l'exercice du leadership par le maire Tremblay là, à Montréal.
Moi, j'ajouterais là-dessus un point pour compléter ce que Marc-André a dit tout à l'heure. Parmi les 9 villes sur lesquelles porte notre projet, pour ce qui est de la présence des partis politiques, et même il y a un système de partis politiques dans 5 des 9 villes. Donc, c'est quand même, ce sont les plus grandes villes du Québec. Si on regarde quelle proportion de la population sont regroupées et regroupées dans ces 5 villes-là, bien, c'est quand même une bonne proportion des électeurs du Québec au niveau municipal qui opèrent dans un système partisan, disons dans le sens de système de parti. J'aimerais ajouter sur la question du maire fort que dans la dichotomie qu'on trouve dans la littérature américaine qui oppose... Strong mayor, weak council, puis strong council, weak mayor. C'est ça, hein, la dichotomie. Et alors, avec les fusions, je pense qu'on est vraiment passé à un système de maire fort dans le sens de cette dichotomie-là. C'est-à-dire que la force du maire entraîne la faiblesse du conseil. Et ça, c'est une question intéressante, je pense, en termes d'analyse politique des villes. Et ça se confirme autant à Montréal qu'ailleurs, je pense. Pour un certain nombre de raisons, le maire a pris beaucoup d'importance. Serge en a mentionné plusieurs. Et c'est la même chose à Montréal. Dans les médias, partout, qu'est-ce qu'on voit? C'est le maire. Et on ne voit presque plus les membres du conseil et le conseil. Pourtant, qui sont là aussi et qui devraient aussi avoir un certain rôle. Je pense que la fusion a renforcé le rôle du maire, a affaibli le rôle des conseils municipaux. le maire le plus fort étant celui qui contrôle le plus complètement son conseil municipal.
Et c'est même vrai, pour les conseillers de membres de l'exécutif. Mm-hmm. Je me souviens, juste à Montréal, par exemple, pendant de nombreuses années, on parlait des administrations Drapeau-Saunier, par exemple, ou Doré-Fenstap. Juste pour montrer, au fond, quand on ajoutait au nom du maire celui du vice-président du comité exécutif, ou du président du comité exécutif à Montréal, ça montrait quand même qu'il y avait le maire, mais il n'y avait pas seulement le maire. On ne dit plus ça aujourd'hui. Donc, ça montre bien, à mon point de vue, que les maires sont devenus des maires plus forts, en tout cas, dans la plupart des villes, et probablement que les fusions ont renforcé un petit peu cette tendance-là.
La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça favorise la démocratie?
Pas moi, ma réponse est claire là-dessus, hein? Non, ça favorise pas la démocratie parce que...
Et la participation, est-ce que ça peut pas entraîner à la limite, à la longue, une baisse du taux de participation lors des votes, puisque les gens vont se sentir plus loin de la politique municipale?
Puis que la représentation des différents territoires électoraux et sociaux de la ville est moins bien assurée. Le rôle d'un conseiller municipal, c'est un rôle de représentation territoriale. On a des districts électoraux chez nous, il ne faut pas oublier ça. Là. Mm-hmm. Tandis que dans beaucoup de villes américaines, par exemple, comme Los Angeles, il n'y a pas de districts électoraux. Donc, c'est une autre logique de représentation. Mais nous, au Canada, au Québec, on a... exception faite de Vancouver où il n'y a pas de district électoral. À part ça, c'est une représentation territoriale qu'on a.
Avez-vous regardé les médias? Parce que lorsque vous dites, à l'occasion des fusions, on se conforme, la configuration des villes rejoint un petit peu plus celle des médias. Et on va avoir un porte-parole, le maire de Québec, la CMRS de Lévis. Ça va couvrir un peu ce que couvrent les médias régionaux. Là. Et donc, ça va être toujours ces gens-là qui vont être à l'avant. Tandis que si on coupe ça en morceaux en ancienne municipalité, bien là, il faut couvrir chaque maire, tout ça. Tandis que si je suis au soleil, j'envoie pas mes journalistes couvrir les candidats locaux là, à l'interne, infra. Donc, ça permet qu'ils travaillent seulement 32 heures par semaine, plutôt que 35 ou 37. Et parce que tu ne fais pas travailler en supplément non plus le soir. Donc, pour revenir justement à la taille, on dit au Saguenay, le maire est plus fort. Est-ce qu'il y a une relation entre la presse, je dirais, même si vous n'avez pas fait d'analyse de contenu de la presse, là, est-ce que vous... Je me souviens, ministre de contenu de Sherbrooke et Trois-Rivières, mais il y a longtemps. Et je me souviens plus à quel sujet, qu'est-ce qu'il y avait dedans. Hein. Mais est-ce que le fait qu'on puisse. Que le média, entre autres la télé ou la radio, couvre le bon public pour l'institution. Donc là, ça se recoupe assez bien. Tandis qu'avant, c'était tout en morceaux, c'est difficile.
C'est intéressant comme question, comme hypothèse. Probablement qu'on pourrait faire l'hypothèse, effectivement, que le fait d'avoir regroupé les villes et qu'elles n'en forment qu'une seule maintenant, pour les médias, c'est un peu plus facile de suivre une campagne. Et probablement que la lumière est faite notamment sur les candidats à la mairie, plus que c'était le cas auparavant, où il fallait éparpiller un petit peu les observations, bien que les élections n'étaient pas toutes en même temps nécessairement dans l'ancien système. Maintenant, les élections municipales ont lieu tout en même temps. Autrement dit, quel est l'impact de la couverture médiatique, au fond, sur l'image ou le renforcement du pouvoir des maires? C'est une hypothèse qui peut être intéressante à retenir. Je dirais en tout cas que dans l'élection de Régis Labeaume en 2007 et aussi en 2009, les médias ont joué un rôle très important à Québec. Souvenons-nous qu'en 2007, M. Labeaume est un inconnu, pratiquement, sauf peut-être du milieu des affaires, puis encore. Donc, il est relativement inconnu du grand public. En 2007, il commence à 3 % d'appui dans les sondages, puis il finit avec un appui électoral de 69 %. Alors, il s'est passé quelque chose, et ce qu'on... ce qu'on a observé par la suite, c'est que les médias, notamment la presse, les stations de radio, certaines stations de radio, ont beaucoup amplifié le message de Régis Labeaume, et pas seulement amplifié, mais même appuyé aussi, indirectement, sa campagne. Donc, ça l'a joué beaucoup, je pense, dans sa montée fulgurante, dans la notoriété, là, de sa notoriété, et puis probablement dans le résultat de l'élection de 2007, et aussi en partie en 2009.
Sur Québec, je voudrais ajouter que, oui, avec les fusions, il y a une grosse ville qui a été formée, mais il y a quand même des territoires politiques sous-municipaux qui existent encore. Il y a les arrondissements. Puis, moi, pour rencontrer les journalistes de temps en temps, et je leur demande, mais vous ne parlez jamais des conseils d'arrondissement. Ils se prennent des décisions là-dedans. Ils disent, oui, mais on n'a pas le temps d'aller là. Nous autres, notre priorité, puis notre employeur nous dit... Vous couvrez le niveau municipal et les conseils municipaux. Si vous avez le temps, vous irez bien à la réunion du conseil d'arrondissement, mais ils n'ont pas le temps, puis ils ne vont pas. C'est dommage.
Mon point, c'est la structure politique, la structure institutionnelle qui fait ça, qui accentue cela. Peut-être qu'il n'allait pas dans les petites villes avant non plus. Il y a la ville de Québec, ouais, qui n'allait pas à Sainte-Foy, peut-être. Mais il y allait aussi à l'ancienne Lorette. Il y allait ailleurs. Mais maintenant, ils vont peu. Et pourquoi? C'est à cause de la structure administrative et non pas à cause de leur travail puis leur temps. Je pense que la structure administrative fait qu'il y a le maire et puis c'est ça qui compte. Le journal de Québec, Le Soleil, n'est pas distribué dans l'arrondissement de district de Sillery. Il n'est pas distribué à Sainte-Foy, il est distribué dans la ville de Québec et plus large. Donc, il faut que l'événement couvre tout ça. Autrement, il peut y avoir des petites colonnes ici ou là, mais un bon article. Si on écoute la télé, ça leur prend quelque chose. J'écoute CBC ces jours-ci, ils parlent de l'aréna de Québec et ils disent qu'elle va être payée par les Canadiens. Bien. oui, c'est sérieux. Non, nouvelle. Mais pourquoi il fait ça? Parce qu'autrement, ils n'ont aucun intérêt ailleurs. Les gens de Halifax à Vancouver écoutent les nouvelles. Qu'est-ce qu'il y a pour eux? Mais ils leur disent, vous allez payer l'aréna à Québec. Peut-être qu'ils écoutent, mais donc ils parlent de l'aréna de Québec. Mais il faut couvrir tout le monde. Mon point, c'est l'institution elle-même qu'on a créée par les fusions fait que ça coïncide bien. C'est mon hypothèse là-dessus, non pas que les... Je comprends que là, la presse a... Je suis d'accord, fais ça. Mais mon hypothèse n'est pas que c'est les journaux ou la radio, tout ça, qui crée le maire, là. Mais l'institution favorise. Okay? Donc, l'institution est importante, la fusion elle-même. Justement.
Et même, je veux dire, le vivant Trois-Rivières, où il y a le Nouvelliste qui couvre, disons, comme Grandeville, Shawinigan et Trois-Rivières, on voit que le Nouvelliste a même joué, je ne vous cacherai pas, un rôle dans la campagne. Donc, on voyait que l'éditorialiste prenait position contre le maire. Il y a des articles sur chacun des conseils et il y a, c'est très dichotomique à Trois-Rivières, il y a un groupe des 9, un groupe des 7. Et donc, facilement, on essaie d'avoir les vues de chacun. Donc, ça vient, le média joue un rôle très fort et est capable de donner beaucoup d'informations et même capable de jouer un rôle dans une campagne. Parce qu'on a eu à Trois-Rivières une campagne qui était très prudente du maire. Et je crois que la manière que le maire s'est distancé, essayait de ne pas faire de bruit, il s'en allait vers une élection facile. Mais a donné le champ à un candidat plus ou moins connu de prendre position et il y a eu le spotlight. Donc, le fait... je crois que le média vient jouer un rôle extrêmement fort et le fait qu'on vienne diminuer le nombre de villes importantes sur un territoire d'un média... En effet, comme vous dites, la structure institutionnelle vient changer la donne et donne plus de visibilité au maire. Qu'est-ce que Serge Bain s'en va le temps? Oui?
Ce sont aussi des personnages qui sont élus par beaucoup de monde.
Ils ont plus de renommée.
Oui, qui ont potentiellement du pouvoir aussi, là, pour ça, du pouvoir politique.
D'abord, je pense
qu'on
convient tous que le secteur municipal, c'est pas très glamour au Québec. Hein? Je veux dire, le pourcentage de votants n'est pas exceptionnellement fort. Là. Je me souviens d'ailleurs, quand j'allais au conseil de quartier, qui est comme une sous-souche, là, je veux dire, il n'y a personne qui va là. Quand j'y allais, Moi, je vais à Saint-Louis. Je me souviens, au départ, on avait trois conseillères qui étaient affiliées, qui venaient, tu sais, qui étaient comme sur le territoire. Elles venaient toutes au début. Puis après quelques mois, je me souviens, ils avaient comme convenu ensemble que, bon, ça valait peut-être pas la peine d'y aller toujours les trois. Fait que, bon, ils se relayaient une après l'autre, là. Puis là, dans votre présentation, j'ai remarqué que, bon... le pourcentage de vote est encore extrêmement faible. Ça m'a vraiment étonné de voir que malgré la... Parce que, bon, déjà en 2009, la bombe était une star, là, qu'on peut dire. Il était assez connu, puis il était assez flamboyant déjà. Le pourcentage de vote n'a pas augmenté tant que ça. Je me serais douté que... Je me serais comme attendu à ce qu'il soit un peu plus élevé à cause de la popularité qu'il y avait. Puis je me demande si ça serait pas... si on ne pourrait pas mettre ça en lien un peu avec le cynisme, le désintéressement de la politique générale. Dans quelle mesure on pourrait faire le lien peut-être avec...
Bien, je pense qu'il faut le remettre en contexte, parce qu'en 2009, il faut se rappeler qu'est-ce qui s'est passé. Premièrement, le monde disait, bon, j'irai pas voter, c'est quasiment déjà fait. La bombe, on voyait les candidats de terrain là. Un peu, ouais, mais à Lévis, qu'est-ce qui s'est passé? Le taux est très faible, mais la mairie était déjà nommée. Mais n'oubliez pas qu'est-ce qui s'est dit aussi. Le maire qui était sorti en conférence de presse en disant « on va avoir un amphithéâtre si vous sortez voter ». Est-ce que vous vous rappelez de ça? Donc devant un candidat fort, je pense en situation, il y avait une situation particulière à Québec. Et je crois même que c'est quasiment surprenant qu'il y ait un taux aussi fort à Québec, selon moi. Parce que l'élection, pour plusieurs, était déjà faite.
Mais par exemple, à Lévis, je dirais, le fait qu'il n'y ait même pas un autre candidat, je veux dire, juste pour jouer le jeu politique, là, si on peut dire, là, faire une opposition, c'est sûr que ça n'a pas aidé, mais je veux dire, déjà la base qu'il n'y ait personne contre elle, il y a comme un... Il y a quelque chose qui se passe.
Pour rappeler l'élection, tu as deux bulletins de vote. Tu as un bulletin de vote pour le maire, oui, mais également pour le conseiller. Et c'est là qu'une trentaine de pourcents ont allé voter pour le conseiller de leur endroit.
J'avais une deuxième question qui revient, je rejoins la vôtre. C'est qu'il y a la disparition du Rassemblement à Québec, et peut-être un mouvement général de ces partis-là programmatiques qui disparaît. Dans votre exposé, vous avez parlé de... Pour toutes les trois villes, je crois, les campagnes électorales ont porté sur... comment positionner notre ville dans un ensemble. Donc, il n'y a rien de politique là-dedans. Okay? Politique, c'est est-ce que c'est lui qui va avoir à manger ou c'est moi? Là, c'est là qu'il y a politique. Puis lorsqu'on est tous les deux qu'on devrait discuter avec Ottawa, je dis, c'est pas politique dans mon sens, là, parce qu'on n'a pas à partager. Mais on a toutes ces choses-là, habilement, ces maires portent ça sur l'extérieur. Où tout le monde dans le groupe, là, oui, c'est des méchants, puis on va se créer, OK? Mais il ne dit pas que vous allez pas avoir votre piste cyclable parce que moi, je veux que mon automobile ait plus stationné, tout ça, ou inversement, parce que moi, je viens ici, vous venez en auto, peut-être, je ne sais pas. Ça ne porte pas là-dessus, sauf peut-être l'amphithéâtre. Et donc, il n'y a pas de raison pour aller voter, en gros, là. Il y a des bonnes raisons d'aller voter si on dit que dans votre quartier, on va installer le dépotoir parce que le mien, il faut que ce soit propre à l'Université Laval. Bien, peut-être que là, vous allez sortir votre... Mais autrement, pourquoi les gens... Il n'y a rien de politique là-dedans. Donc, c'est pas l'habitude.
Un critère qui est reconnu dans la littérature comme étant assez déterminant sur la participation électorale, puis c'est une position où il y a différentes options, puis où il y a du débat.
Une controverse.
Mais où il y a de la controverse, là, la participation électorale est plus élevée. Mais à Lévis, avec une mairesse élue par acclamation pendant une campagne électorale, il n'y a pas de débat. À Québec, avec un maire très, très, très médiatique, et ben, le principal adversaire, Jeff Filion, je ne peux pas dire qu'il n'était pas médiatique, là, mais il n'entraînait pas un débat qui aurait pu être crédible. Donc, pas de débat non plus à Québec. À Trois-Rivières, le maire sortant se cache quasiment parce qu'il ne veut pas. Il est porté, lui, il est sur son élan. Moins il y a de débat, lui, plus il est content. Et donc, c'est comme une dynamique là, qui fait que il n'y a pas de débat. Puis s'il n'y a pas de débat, il n'y a pas de nouvelles dans les médias. Puis s'il n'y a pas d'informations dans les médias, ben les citoyens ne sont pas interpellés. Puis s'ils ne sont pas interpellés, ben ils ne vont pas voter.
En même temps, c'est de voir aussi ce qui est assez intéressant en 2007 et surtout en 2009 à Québec, c'est le discours par lequel on cherche à dépolitiser la politique municipale. Et dans le cas de M. Labeaume, ça avait commencé avec Mme Boucher en 2005. La façon de dépolitiser, c'était de dire notamment qu'on n'a pas besoin de parti politique au niveau municipal. Et ça, ça a été très fort avec l'arrivée de Mme Boucher. Elle a continué avec ça avec les deux années où elle était là. Et ça a été repris, ce discours-là, par M. Labeaume en 2007, mais surtout en 2009, même si lui-même s'est présenté comme chef d'un nouveau parti, qui était une équipe, c'était de dire que de toute façon, c'est une équipe d'indépendants et qu'on peut être maire d'une grande ville sans être pris dans des structures partisanes au sens... Mais quand il disait ça, il pensait au renouveau municipal de Québec. Alors, c'était vraiment d'attaquer le renouveau, le faire disparaître. Il voulait vraiment le faire disparaître. Et donc, c'était une façon de dépolitiser le débat politique en disant, au fond, que pourquoi avoir des partis politiques qui représentent des segments. Nous, on se présente, et c'est un discours qui est très populiste, en disant, nous, on se situe au-dessus de ces petites chicanes politiques. On veut positionner la ville. Donc, le positionnement économique de la ville est aussi une façon de dépolitiser le débat électoral, en disant, au fond, ce qu'on veut, c'est d'attirer du développement, c'est de créer de la richesse. C'est pour tout le monde. On ne vise pas tel segment ou telle personne ou tel groupe. On vise l'électeur. On vise le peuple. Alors, et ça, je pense, ce discours-là a marqué beaucoup la campagne. Et à mon point de vue, il explique en bonne partie la disparition du renouveau municipal et le retour en force de ces partis qui n'en sont pas vraiment et qui reposent sur la politisme municipale, en deux mots, là. Alors ça, je pense que c'est, à mon point de vue, c'est certainement une tendance qui marque là, les élections municipales, notamment à Québec depuis 2005, certainement, et qui explique la disparition du renouveau municipal, qui n'a pas réussi à combattre ce discours. Littéralement, il a été complètement submergé, balayé par ce discours-là. Il n'y a pas eu de contre-discours là-dessus. Il a tenté de se défendre, mais c'est... Et probablement que la désillusion en général de l'électeur vis-à-vis des partis politiques explique en partie aussi la force de discours-là et sa pénétration là, chez l'électeur. Qu'en sera-t-il dans 10 ans? C'est difficile à dire, mais en tout cas jusqu'à maintenant, et qui explique le retour en force du pragmatisme chez les élites locales et chez les partis. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de politique, mais le discours, c'est tenter de montrer qu'on peut faire on peut se présenter en dehors de structures partisanes, et ce faisant, on dépolitise, on cherche à dépolitiser le débat électoral.
Et peut-être pour faire un bout de chemin, on n'a pas vraiment besoin de partis politiques, parce que regardez qu'est-ce que j'ai fait. Labeaume a fait ça, l'évêque a fait ça, Labeaume l'a fait hier, en fait. Quand on demandait, ouais, les dépassements de coûts pour l'amphithéâtre, hey, vous me connaissez, est-ce qu'il y en a des dépassements de coûts dans le projet? Il n'y en a pas. Donc, c'est un peu, qu'est-ce que j'ai fait est garant de l'avenir. Et essayer de faire des débats à partir de, être un candidat, essayer d'attaquer un maire sortant qui, sur des débats de fond, il n'y a pas vraiment de programme comme tel, et le discours est, regardez qu'est-ce que j'ai fait. Parce que sur le site internet du maire Lévesque, c'était pas qu'est-ce qui va arriver dans les 4 prochaines années, c'était voici dans les 4 dernières qu'est-ce que j'ai fait comme programme. Qu'est-ce que j'ai réalisé pour le développement de Trois-Rivières? Donc, il devient encore plus difficile de partir des débats pour quelqu'un qui regarde davantage, qui essaie de mettre davantage son bilan que qu'est-ce qu'il veut faire comme réalisation future.
Est-ce que vous pensez que le fait que justement on se fie au passé plutôt que d'essayer de voir l'avenir, c'est pas. Est-ce qu'il y a comme un manque. Trouvez-vous qu'il y a un manque de vision peut-être là-dedans, ou peut-être la paresse? Le mot est peut-être pas bien choisi, là, mais est-ce que c'est juste stratégique ou...
C'est stratégique. C'est marketing. C'est utiliser l'image que tu as réussi à bâtir. Parce que c'est pas nécessairement des candidats qui n'ont pas de vision. Parce que Labeaume, l'évêque, c'est des gens qui ont beaucoup de vision. Mais...
Je pensais plus à Tremblay, là, en fait. Là, c'est ça, là. Parce que je... Bon, ici, on entend... Ben, c'est sûr qu'on...
Mais en fait, mais tout ça est aussi une question de stratégie politique. C'est sûr qu'un maire qui a eu un, entre guillemets, un mauvais mandat, un maire sortant qui a eu un mauvais mandat, n'aura pas tendance à trop insister sur son passé. Là, il va peut-être plus se projeter. Mais si le mandat a été, s'est passé relativement bien, ben, il va tenter de mettre un peu en lumière ce qu'il a réalisé. Alors, c'est une question de dosage, de contexte et de stratégie.
Mais là, on voit aussi l'importance d'avoir, d'avoir des débats et d'avoir une force d'opposition. Parce que le rôle de l'opposition, à ce moment-là, ça va être d'aller dire, « Ben, monsieur le maire, c'est pas vrai, là, ce que vous dites dans ça. Nous autres, on a des chiffres, pour reprendre l'exemple d'hier. Oui, il y en a eu des dépassements de coûts dans tel cas, dans tel cas, dans tel cas. Mais ça, il faut qu'il y ait quelqu'un qui va le dire, ça. Puis si vous n'avez pas de force d'opposition... des fois, les journaux jouent ce rôle-là en l'absence d'opposition. Mais l'idéal, c'est d'avoir, d'avoir du débat.
Oui, mais sur le... avez-vous, sur ces villes-là, ces trois villes-là, une idée de... Si on parle d'élite, là, au sens classique, là, est-ce que les maires représentent une certaine classe sociale en dehors de leur formation là, d'affaires ou scolaires? Est-ce qu'ils sont... Donc, lorsque les gens dépolitisent, là, ce que je disais tout à l'heure, généralement, c'est au profit de quelqu'un, hein, qu'ils le veulent ou pas, là, ça va être au profit d'un groupe. On crée un amphithéâtre, OK? Si on dispute sur le coût, est-ce que c'est 400 millions ou 402 millions ou 424 millions, c'est marginal. Une fois que t'es rendu là, c'est... Le maire a gagné. Une fois que les gens se disputent, là, est-ce qu'on va peindre en bleu à l'intérieur ou en vert, c'est terminé, il a gagné, c'est pas important, ces choses-là. Chose avant, c'était est-ce qu'il va construire des logements sociaux dans telle région pour 400 millions de dollars dans deux ans? Est-ce qu'il ajoute 400 millions de dollars dans deux ans pour le logement social ou pour un tramway ou je ne sais pas trop quoi? OK. Donc, est-ce qu'il représente un mouvement? Donc, si on parle de la vision, est-ce qu'ils ont ces gens-là? Est-ce qu'ils ont quelque chose en commun ou dans leur ville, ils peuvent avoir une vision, mais la vision de qui? Lorsqu'on dit des choses au Rassemblement populaire, ils sont gauchisants, que l'allié dit des choses gauchisantes, il faut enlever. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Qu'est-ce que c'est donc? Ce qu'on appelle le côté pragmatique, là, j'aime pas votre expression que vous employez. Vous autres. Les gens sont pragmatiques quand ils prennent les choses et les mettent là. Quand ils prennent à cette personne qui a donné ça, là, il est pragmatique. Puis quand il leur divise des choses, il n'est pas pragmatique. OK? Votre vocabulaire est biaisé là-dessus.
Ben, c'est sûr que si on prend l'exemple toujours de Régis Labeaume, c'est clair que son discours cherchait, je pense, à rallier, je dirais, les classes moyennes. Et c'est pour ça que je disais tantôt que les médias ou certaines stations de radio avaient joué un rôle important. Ces stations de radio là, qui sont plutôt populistes, là, et qui, sur ce plan-là, Labeaume s'est beaucoup accroché là-dessus. Donc, l'image de Labeaume, parce que l'élection, c'est toujours aussi un jeu de représentation ou face à quelqu'un d'autre. Donc, face au renouveau municipal, c'était l'image qu'on voulait opposer à un renouveau municipal qui a toujours été associé ou perçu comme étant un parti de l'élite intellectuelle. Alors ça, je pense, monsieur Labeaume a tenté de se détacher de ça. Alors, donc, sur ce plan-là, donc, probablement qu'il a tenté d'aller chercher cette clientèle-là, une clientèle, par exemple, à qui il est relativement facile de vendre des idées comme un amphithéâtre, par exemple, parce que c'est un discours ou c'est un engagement qui est assez bien reçu là, pour une partie de cette clientèle-là. Alors, sur ce plan-là, je dirais oui, c'est un discours qu'on peut relier là, à certaines classes, ou qui s'adresse notamment à certaines classes, par rapport à un discours antérieur qui, lui, était le discours de la haute ville, par exemple. Alors, le discours de la Beaune est un discours plutôt de basse ville et des banlieues, pas les banlieues les plus cossues, mais les banlieues de classe moyenne. ça a pas mal joué.
Est-ce que c'est la même chose à Lévis et à H?
Moi, j'aimerais ajouter sur ça, puis pas juste pour Québec, mais pour les nos trois villes, puis peut-être pour les autres aussi, c'est qu'à partir du moment où les municipalités considèrent que leur priorité, c'est le développement économique, ben, leur clientèle de référence, c'est les élites économiques, c'est les milieux économiques. Et si on regarde le maire Labeaume avec son image d'entrepreneur, de recherche de l'efficacité, de la transparence, ça, c'est des valeurs qui sont reliées à l'éthique économique. Et ben c'est la culture actuelle du milieu municipal, je dirais. Tu essaies de trouver quelqu'un qui va remettre ça en cause, puis qui est maire. Il n'y en a pas beaucoup. Parce que c'est comme un credo que tout le monde partage, autant les médias que les élus municipaux, que les chambres de commerce, puis le lien entre les élus municipaux, puis les chambres de commerce, puis les milieux d'affaires sont encore, je dis encore, parce qu'il y a 50 ans, ils l'étaient, puis ils le sont encore, très intenses. Puis qui plus est, aujourd'hui, ils sont officiels, puis ils sont légitimes. Alors qu'il y a 40 ans, quand on parlait de ça, on disait, il y a quelque chose qui n'est pas correct là. Puis maintenant, ben, on dit, oh, bravo, ça va bien, c'est comme ça que c'est supposé être.
Vous parliez de Trois-Rivières, vous parliez de Trois-Rivières, en fait. Pour comprendre, il y a Trois-Rivières, 9 personnes des 16 qui sont présentement sur le conseil, y compris le maire, c'est des personnes qui étaient élues avant les fusions, qui ont été élues en 2001, qui ont été élues en 2005, puis qui ont été élues en 2009. Est-ce qu'ils sont associés à un groupe, je dirais, j'aime la vision de Mme Carré là-dessus, mais on le voit moins, on le voit beaucoup.
Donc, ils sont vraiment représentatifs de leur... C'est des lecteurs médians, comme ils disent. Ils sont vraiment représentatifs de leur municipalité et ils n'ont pas partie d'un certain groupe et une élite là, quelconque.
Moi, je ne sais ça, pas. Là, je ne sais pas si j'irais dans ce sens-là. Là. Puis, je suis même pas sûr... Moi, je suis même pas sûr que la bombe... ils tiennent le langage de l'arrondissement de la Haute-Saint-Charles. Là. Il habite à Sillery lui-même, là, même s'il il le dit pas, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'il ne dit pas. Moi, je ne suis pas sûre qu'il soit représentatif de... pas dans ce que lui veut, mais dans ce que nous, on constate, là. Je ne suis pas sûre, moi, tant que ça, parce que, prenons juste les enjeux de l'amphithéâtre, parce que ce sont vraiment les enjeux de l'ensemble de la population de la ville de Québec, ça.
Oui, mais il joue sur plusieurs tableaux.
Il joue avec les sondages aussi.
Il est habile, parce que...
je ne dis pas qu'il n'est pas habile, hein?
Mais en même temps qu'il aura ce discours-là sur un équipement collectif, c'est sûr que c'est un équipement collectif qui va servir à tout le monde, mais qui va faire plaisir, notamment à ceux qui s'intéressent notamment au hockey, mais il est habile au sens aussi où c'est un discours qui est plus large que ça. Par exemple, quand il s'attaque aux fonctionnaires, à mon point de vue, c'est important, parce que là, je pense qu'il va chercher l'intérêt des gens qui croient, ils sont nombreux à Québec, que les fonctionnaires, tout palier confondu, sont des gens qui sont bien, qui sont choyés et qu'il faut remettre à leur place. Donc, il est habile, il joue beaucoup là-dessus et des fois on dit il en a échappé une, mais c'est à se demander si c'est pas voulu comme ça. Je pense que jusqu'à un certain point, ce discours-là anti-fonctionnaire est un discours voulu. Parce que ça fait plaisir, en fait, chez beaucoup d'électeurs, ça fait plaisir à entendre. Dire, voici enfin quelqu'un qui s'attaque aux policiers, aux pompiers, aux cols blancs, aux cols bleus, des gens qui les pantouflent et puis qu'on paie par nos taxes. Alors, je pense que ce discours-là, à mon avis, sur ce plan-là, il se démarque assez nettement de ce que M. Lallier disait. M. Lallier ne disait pas cela. Alors, lui, il ne se gêne pas pour dire cela. Et ça, je pense qu'il entretient de ce point de vue-là un appui électoral, en tout cas jusqu'ici, qui lui sert bien et qui s'est reflété en bonne partie dans les résultats de l'élection de 2009. Et tant que ce discours-là va continuer à attirer l'attention et à faire plaisir, je pense qu'il va continuer à le tenir.
Mais je voudrais avoir les chiffres devant moi pour vous les citer, là. Ça prendrait quelques minutes. Ce serait intéressant d'aller voir la proportion du vote que la Beaume a eu en 2009, là où Mme Guérette et M. Bussière ont été élus comme conseillers municipaux. Quelle est la proportion du vote qu'il y a eu? Je suis sûre que sa proportion est plus basse qu'ailleurs, bien qu'elle ait demeuré haute là aussi, je pense. Mais elle est quand même moins forte
que partout ailleurs,
que
c'est
partout
sûr.
Que partout ailleurs. Et donc, il est peut-être un petit peu moins représentatif de la façon de voir les choses dans la haute ville, puis disons dans la partie plus bourgeoise de la ville de Québec. Il a un profil populiste auquel la population de la haute ville est peut-être moins sensible.
Ouais. Il y a la force aussi du candidat local, là, et du Bussière, je pense que c'est quelqu'un qui est assez apprécié. Guérette, elle est plus nouvelle, là, mais probablement la notoriété de Bussière aussi explique en partie sa réélection. Là. Mais on peut penser que ce discours-là, plus populiste, pour l'instant, est plus de difficulté un peu à rejoindre ces électeurs-là de la haute ville.
Population qui écoute un peu moins la radio poubelle.
Possiblement.
Pour clarifier les choses, là, aussi.
Il n'est plus dans une bonne case, la radio poubelle. Il est tombé en. C'est moins fan club.
Okay. On a épuisé du sujet.
Le sujet est épuisé.
On aurait pu réconcilier.
Il faut retourner à d'autres occupations.
Merci beaucoup.
Merci.